18h30 ici à Paris, l'heure est au débat sur Radio France Internationale.
Le débat du jour. Romain Osoui.
Et en cette semaine située entre 2024 et 2025, eh bien nous allons évoquer les grands enjeux de l'année qui s'annonce. Premier volet ce soir, on va s'intéresser à la situation au Proche-Orient, qui évidemment concentre tous les regards et où les forces en présence sont extrêmement nombreuses. Gros plan sur l'une d'entre elles, celle qui aspire à instaurer un nouvel ordre régional, selon les mots de son Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Notre question, la marche en avant d'Israël peut-elle être entravée ? L'État hébreu est engagé sur plusieurs fronts et semble multiplier les gains géopolitiques. Quelles sont les menaces qui pèsent sur Israël ? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos deux invités en studio à mes côtés, Ofer Bronstein, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du Forum international pour la paix, chargé de mission par le président français pour le rapprochement israélo-palestinien et ancien conseiller du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Face à vous, Jean-Paul Chagnolo, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur émérite des universités, président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, je disais qu'Israël était engagé sur de nombreux fronts. Ça s'est vérifié ces derniers jours. À Gaza, en premier lieu, la fin de semaine a été marquée par une opération dans un hôpital où se trouvait, selon Israël, un centre de commandement du Hamas. En Syrie, Israël a multiplié les bombardements sur les infrastructures militaires du pays depuis la chute du président Bachar al-Assad. Et puis on peut également citer le Yémen avec des frappes israéliennes la semaine dernière sur des sites contrôlés par les rebelles Houthis. Jean-Paul Chagnolo, ce sera ma première question. Que signifie cette agitation tous azimuts de la part d'Israël qui marque cette fin d'année 2024?
Écoutez, c'est une forme d'hubris d'un Premier ministre qui ne pense qu'en termes de rapport de force et qui n'a finalement aucune vision politique de long terme. Que Israël ait été attaqué par le Hamas, c'est évidemment incontestable cet octobre. Que le Hezbollah ait aussi soutenu cette attaque en attaquant Israël, ce sont des faits incontestables. Mais il faut aller au-delà. Israël est aussi, dans cette affaire, une puissance occupante. Et aujourd'hui, par exemple à Gaza, il est bien évident que le Hamas ne représente plus du tout une menace. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les militaires israéliens eux-mêmes. Il suffit de lire la presse israélienne. Et donc, on continue à cogner parce qu'en fait, ce que veut faire Netanyahou dans cette configuration, c'est aller au bout de la politique qu'il mène depuis des années et des années, c'est-à-dire empêcher toute naissance d'un État palestinien et faire en sorte de liquider la question palestinienne. Et donc là, il le fait en écrasant les Palestiniens de Gaza. Nous sommes dans un processus, dans une indifférence complète de l'opinion internationale, et des Occidentaux en particulier, un processus de nettoyage ethnique, il n'y a pas d'autre terme. Aujourd'hui, plus rien n'est possible à Gaza, et en particulier pour la jeunesse de Gaza. C'est absolument mortifère ce qui se passe. Et ça va donc, à terme, provoquer bien d'autres violences. Donc on ne règle rien aujourd'hui, au contraire. Vous parliez d'une avancée d'Israël. Moi, je parle d'une régression par rapport à tout ça.
On peut parler d'avancée géopolitique.
Oui, et pour moi, c'est une régression géopolitique. Et non pas une avancée, parce que au lieu d'aller vers une solution politique, qui serait des négociations comme on a connu il y a longtemps, qui aboutiraient à un État palestinien à côté de l'État d'Israël, évidemment, on va simplement dans la destruction. Et avec la destruction, on gagne une bataille, mais sur le plan politique, on perd.
Alors ça, c'est intéressant, définition des termes, Ofer Bronstein. Avancée géopolitique ou régression géopolitique de la part d'Israël, engagée dans de multiples conflits, évidemment Gaza en premier lieu, il y a eu le Liban face au Hezbollah, il y a le Yémen, la Syrie qui est bombardée depuis la chute du régime syrien.
Vous savez, merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être avec Jean-Pierre que je connais depuis...
Jean-Paul
de Chagnolo que je connais depuis plusieurs dizaines d'années, ça ne vous rajeunit pas. Oui. Et vous savez, j'ai décidé de ne plus être ni optimiste ni pessimiste parce que être optimiste ou pessimiste, ça me met dans une situation de spectateur.
Non, mais c'est la lecture que vous faites.
Oui, justement, je ne veux pas être un spectateur. Moi, je veux être un acteur. Mm-hmm. Et en tant que tel, je suis obligé de regarder la moitié du verre qui est plein. On ne peut pas nier, Jean-Paul a raison, la catastrophe de Gaza. Israël à Gaza, militairement, a gagné, mais moralement, elle a perdu. Et ça, c'est une tâche qui va poursuivre Israël pendant très longtemps, si elle ne fait pas ce qui est nécessaire de faire ces prochaines années pour y remédier. Je vais vous dire autre chose, on est en fin d'année. Je suis français, je suis aussi israélien, j'ai un passeport palestinien, et je suis juif. Mais en tant qu'israélien et que juif, j'ai honte. J'ai honte. J'ai aucune responsabilité directe de ce que subissent les Palestiniens à Gaza, mais en tant que juif et en tant qu'israélien, et en cette fin d'année, je leur demande pardon.
Qu'est-ce qui peut se passer, selon vous, en 2025 à Gaza? Que peut faire Israël?
La guerre va se terminer, c'est une question de jours. Elle n'a plus raison d'être.
C'est
une question de jours. Je pense qu'avant le 20 janvier, on verra...
Ça veut dire un accord?
Oui, dès que le président Trump rentrera à la Maison-Blanche, je crois que les Israéliens et les Palestiniens ont tout intérêt à calmer le jeu. Moi, je veux y croire. Tous les signes disent que c'est ce qui se passe.
Oui, il y a eu des négociations.
Il y a eu des négociations qui ont repris sur les otages, qui sont passées à la vitesse supérieure. Donc, s'il y a des otages qui sont libérés, ça calmera un peu le jeu. Et ça obligera Israël aussi à libérer des prisonniers palestiniens. Et je suis, depuis le début, de ceux qui appellent à libérer Marwan Barghouti et à se retirer petit à petit de la bande de Gaza et pour permettre... lentement et avec une coalition importante à l'autorité palestinienne de prendre le contrôle de Gaza.
Vous évoquez votre sentiment, le sentiment des Israéliens, quel est-il à l'égard de Benjamin Netanyahu aujourd'hui?
C'est ça qui m'attriste énormément. C'est que pour la première fois de ma vie, et Jean-Paul sait que je suis un vieux militant, il y a un manque d'empathie de part et d'autre. Les Israéliens, si vous voyez les médias israéliens, vous ne voyez pas ce qui se passe à Gaza. On est là, on est bloqué, on est resté au 7 octobre. La peine, la souffrance, les soldats qui meurent tous les jours, les otages, etc. Mais on ne regarde pas ce qui se passe chez le voisin à Gaza, on ne veut pas le voir. Il est important de le déshumaniser. Ça nous permet de continuer à en tuer des centaines. Ça nous permet de rester à Gaza et d'affliger des peines terribles, des souffrances terribles aux Palestiniens, parce qu'on les a déshumanisés. Et du côté palestinien, quand je dis à mes amis palestiniens, vous êtes obligé de condamner le 7 octobre. Le 7 octobre ne sert pas à la cause palestinienne. Au contraire, le Hamas est l'ennemi des Palestiniens. Si le Hamas n'était pas l'ennemi des Palestiniens, il n'aurait pas provoqué cette guerre. Il l'a provoqué, sachant très bien qu'Israël allait réagir avec outrance. Et mes amis palestiniens ont du mal à condamner le 7 octobre. Ils le font d'une façon de tourner, ils ont du mal. Et ça me peine énormément qu'il y ait un manque d'empathie de part et d'autre. On va devoir reconstruire des ponts. On va devoir reprendre le dialogue. Il n'y a pas d'autre choix. Il y a quelque chose qui ne va pas changer. Il y a 10 millions d'Israéliens aujourd'hui en Israël, 8 sont juifs, à peu près la même quantité de Palestiniens entre Gaza et la Cisjordanie. Donc on est presque... eux ne vont pas partir et Israël ne va pas partir. Donc il faut trouver un moyen d'avoir un bon voisinage. Peut-être que la paix viendra plus tard, mais au moins... Vous savez encore un élément qui me torture. Cette guerre a coûté plus de 200 milliards de shekels aux contribuables israéliens. Je ne parle pas de ce qu'elle a coûté aux Libanais. Je ne parle pas de ce qu'elle a coûté aux Iraniens, aux Syriens, aux Yéménites. Chaque fusée, c'est des dizaines de milliers d'euros. Vous savez ce qu'on aurait pu faire avec 200 milliards en l'espace d'un an? On aurait pu bouleverser Gaza, en faire un paradis. Et c'est terrible que les Israéliens et les Palestiniens dépensent tellement d'argent, tellement d'énergie à se faire du mal.
Jean-Paul Chagnolo, vous avez dit dans votre première... réponse que Benjamin Netanyahu n'avait aucune vision politique de long terme. Qu'est-ce qui guide son action aujourd'hui?
Je crois que c'est quelqu'un qui a une idée depuis 30 ans ou davantage sans doute. Enfin, je parle d'Oslo là. C'est en fait de faire une sorte de grand Israël où la colonisation, d'ailleurs il l'a encore redite tout récemment, la colonisation jusqu'au bout et donc annexer l'ensemble des territoires, c'est-à-dire du Jourdain à la mer.
Mais est-ce qu'il est soutenu par l'opinion israélienne?
à l'heure actuelle, Hofer vient de le dire, il est soutenu. Il est soutenu sur quoi, on ne sait pas, mais il est soutenu en raison de la guerre.
Et c'est pour ça qu'il mène cette action-là ?
Comment ?
Et c'est au nom de cette popularité qu'il mène cette action-là ?
Ah non, il l'a toujours mené. Il a, si vous voulez, c'est ça le problème, c'est qu'il faut avoir un peu de mémoire. Il a toujours eu cette politique. Qui a cassé Oslo ? Alors c'est une vieille histoire, c'était il y a 30 ans. Ouais. Mais c'est d'un côté le Hamas, évidemment, qui a conduit des actions, des attentats. Moi j'étais à Jérusalem à l'époque, je m'en souviens très très bien. Et puis c'était évidemment Netanyahou. Et c'est la droite la plus extrême qui a tué, assassiné Isaac Rabin. Et quand ils ont tué, quand il a tué Isaac Rabin, il a dit je tue le processus. Mmh. Et derrière, il y avait des gens comme Netanyahou, non pas dans la main qu'il a tué, mais ouais. Je veux dire dans la position politique. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer en 2025 très probablement? Parce qu'on dit on va reconstruire, ou il va y avoir un accord. Probablement, Hofer a sans doute raison, mais il y a de l'irréversible aujourd'hui, de l'irréversible. C'est-à-dire que Gaza, on ne va pas s'arrêter et puis dire voilà, on va reconstruire. Non, parce qu'il est déjà clair que d'abord, il y a eu plus de 45 000 morts, des centaines de milliers de blessés, des villes entières, enfin des parties entières des villes qui ont été détruites, chacun le sait aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, l'armée israélienne a demandé l'évacuation de Beit Jaloun, qui est une localité qui se trouve au nord de Gaza, près de Eretz Israël. On veut vider une bonne partie de cette partie nord. Il y a le couloir de Nezarim, qui n'est pas un couloir, c'est un espace de plusieurs kilomètres de large sur une bande qui en fait 40. Donc je ne sais pas si vous voyez l'amputation que ça représente. Et qui est uniquement occupé par les Israéliens. Donc les Israéliens ont réoccupé tout ça et entassé, il n'y a pas d'autre terme, les Palestiniens dans le sud, autour de Khan Younes et puis de Rafah. Voilà la situation. Et ça, c'est l'irréversible. Mmh. C'est l'irréversible s'il n'y a pas un changement profond. Et du côté de la Cisjordanie, qu'il ne faut jamais oublier, bien entendu, l'idée, c'est d'annexer la Cisjordanie de façon à faire une sorte de grand Israël où Gaza sera une espèce de poche... sous surveillance. Ouais. Voilà le schéma. Mais ce n'est pas un schéma nouveau. C'est un schéma qui... C'est plutôt les conditions actuelles qui ont permis à Netanyahou faire ça.
Les conditions, la situation géopolitique actuelle, elle sert ces ambitions-là, avec l'affaiblissement de l'Iran que marque la chute du régime syrien.
Lui, oui, ouais. C'est ça. Et puis les Occidentaux, dans cette affaire, ont été... les Américains ont à la fois dit qu'il faut un cessez-le-feu. On a complètement oublié un texte qui a été voté à l'unanimité, le 10 juin, qui est un texte d'une résolution du Conseil de sécurité demandant le cessez-le-feu et prévoyant en plusieurs étapes quelque chose qui ressemble à ce qu'évoquait Hofer, c'est-à-dire à terme, on fait des échanges de prisonniers et puis des otages, et puis on va vers une reconstruction. Mais ce texte a été complètement oublié, le 10 juin, on l'a oublié. Et par conséquent, on est vraiment dans une posture de guerre, et les Américains ont soutenu ce texte, c'est même eux qui étaient à l'initiative, et en même temps, ils ont toujours, jusqu'à ce jour, donné les armes nécessaires pour écraser Gaza. Donc, quand on dit d'un côté, on veut un cessez-le-feu, que de l'autre, on livre des armes, on va évidemment dans la guerre. Juste un dernier mot pour dire que je pense qu'il faut réfléchir à ce terme d'irréversible à Gaza, c'est de l'irréversible.
Non. C'est de l'irréversible, mais alors, vous ne partagez pas l'avis de Hofer Bronstein qui dit que l'accord à Gaza, c'est une affaire de jour?
Ah mais si, il peut y avoir un accord, c'est possible, mais la situation à Gaza... Et s'il y a eu un nettoyage ethnique, c'est-à-dire si on a vidé de sa population toute la partie nord, et si le Netzarim, comme je viens de le dire, est aussi interdit aux Palestiniens, on est dans un schéma radicalement différent. On n'est pas comme dans les précédentes guerres de Gaza, où il s'est passé des choses terribles, mais il y avait un cessez-le-feu et on pouvait reprendre ses activités. Pour prendre des choses très simples, moi qui suis universitaire, je pense aux étudiants. Toutes les universités ont été systématiquement détruites, les bâtiments. Mais pas par simplement des bombardements. C'était détruit comme étant une façon de faire table rase. Et donc pour les étudiants, par exemple, de Gaza, il y en avait quand même beaucoup, avec des niveaux importants. Hein. C'est des universités de qualité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent rien faire. Ils sont complètement perdus. Si on prend les enfants, il y a un retour dans les classes impossible, etc., etc. Donc on est quelque part dans l'irréversible. Alors bien sûr, en politique, l'irréversible, il est dialectiquement dépassable à un moment donné, mais c'est l'irréversible pour les temps qui viennent. Que vont devenir les 2 millions de Palestiniens qui sont eux-mêmes, il faut le rappeler, descendants des réfugiés de la Nakba de 1948 à 85% d'entre eux.
Hofer Bronstein, je voudrais qu'on dézoome et qu'on parle pas uniquement de Gaza, parce qu'évidemment, quand on parle d'Israël au Proche-Orient, on l'a dit, Israël engagé sur de nombreux fronts, et Israël veut instaurer un nouvel ordre régional. Benjamin Netanyahou l'a répété à plusieurs reprises. Quelle est la la prochaine étape, puisque j'évoquais l'affaiblissement de l'Iran, la prochaine étape en 2025, au-delà de Gaza, de la part d'Israël, c'est quoi ? C'est frapper les installations nucléaires de l'Iran, parce qu'on dit que l'Iran est peut-être à la veille de la fabrication de l'arme atomique. Et ça, c'est intéressant, parce que ça a toujours été la ligne rouge des États-Unis. Est-ce que cette ligne rouge, elle va sauter avec l'élection de Donald Trump ?
Tout d'abord, 2025, c'est une année obligatoirement de changements radicaux dans la région. Il y a un nouveau pouvoir qui va prendre forme en Syrie. Le Hezbollah est très affaibli au Liban, donc il y a peut-être une chance pour les Libanais de se rapproprier leur pays. À Gaza, il va y avoir un cessez-le-feu. Il va falloir réfléchir qui va reconstruire et comment on va reconstruire. Ce que moi, on a été témoin ces dernières années à une guerre qu'Israël a menée contre deux organisations terroristes, pas avec des États. Donc, et moi, je suis de ceux qui pensent que s'il y avait eu un État palestinien avant le 7 octobre, il n'y aurait pas eu le 7 octobre. Moi, je suis de ceux qui pensent que si l'armée libanaise, l'État libanais existait, il n'y aurait pas eu le Hezbollah et il n'y aurait pas eu de guerre avec les Libanais.
Donc Israël s'en prendra pas, va pas attaquer l'Iran.
Je ne sais pas ce qu'a l'intention de faire M. Netanyahou. Je sais qu'il ne peut pas le faire sans les Américains. Attaquer l'Iran, ce n'est pas du pique-nique. Il sera obligé de recevoir le feu rouge et l'aide des États-Unis pour pouvoir attaquer l'Iran. Moi, j'espère que les Iraniens, j'ai l'impression qu'ils se réveillent et ils s'aperçoivent de leur faiblesse régionale. Ils ont perdu leur principal allié qui était la Syrie. Ils ont perdu au Liban. Ils vont perdre au Yémen. L'Iran n'est pas ce qu'elle a été. Il y a un nouvel ordre régional qui est en train de s'établir. Les Russes et les Chinois jouent un rôle beaucoup plus important qu'ils ne l'avaient joué auparavant. Les Chinois, c'est eux qui ont provoqué le renouvellement des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ouais, ce qui est important. Quel jeu voudra jouer M. Donald Trump ? Moi, je reste optimiste dans la mesure où je crois qu'il va vouloir élargir les accords d'Abraham. Pour élargir les accords d'Abraham, il faut passer par la reconnaissance de l'État palestinien. Et moi, j'en appelle à la France. Moi qui ai conseillé et le président Macron dans ce dossier, je le dis d'une façon la plus ouverte possible, il faut que la France reconnaisse l'État palestinien sans délai. Ça suffit. Ça fait 30 ans qu'on nous dit deux États, il faut le faire, il faut le déclarer. Même si on change les paradigmes, on déclare tout d'abord qu'on reconnaît l'État palestinien et on laisse les négociations pour après. Nous, on a voulu tout d'abord qu'il y ait des négociations et à la fin un État palestinien, ça n'a pas marché. Le gouvernement prochain israélien et palestinien ne sont pas capables seuls d'arriver à un accord. Il faut que ce soit fait avec de l'extérieur.
Vous avez dit qu'il y avait un nouvel ordre régional qui était en cours. Ça peut se traduire comment à l'issue de la prochaine année en termes de gains territoriaux pour Israël ?
Je ne pense pas qu'Israël ait des ambitions territoriales en Syrie. Les incursions qu'ils ont faites ces derniers temps, c'est pour montrer qu'ils sont les boss dans la région, qu'il ne faut pas se frotter à eux, que le nouveau régime syrien doit être gentil avec eux. Et je pense d'ailleurs qu'il y a des signes intéressants entre le nouveau régime syrien et Israël. Mais je ne pense pas qu'il y ait des ambitions territoriales pour Israël en Syrie. Ça ne sert à rien.
Au Proche-Orient, la marche en avant d'Israël peut-elle être entravée ? La question qu'on pose ce soir, alors qu'à partir de ce lundi, on va tracer les perspectives des enjeux de 2025 dans le monde. Mes deux invités sont Ofer Bronstein, président du Forum international pour la paix, ancien conseiller d'Itzhak Rabin, chargé de mission pour Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien, et Jean-Paul Chagnolo, professeur émérite des universités, président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. On en vient à la deuxième partie de notre débat, où je voudrais à présent évoquer les menaces qui peuvent peser sur Israël, qui peuvent entraver cette, entre guillemets, marche en avant d'Israël et de Benjamin Netanyahou. Quelles sont-elles, selon vous, ces menaces, selon vous, Jean-Paul Chagnolo ? Quel garde-fou, justement, à cette politique israélienne ?
Moi, je ne crois pas qu'il y ait d'abord une marche en avant d'Israël. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait régression.
Oui.
On ne fait pas, on ne construit pas...
Je mets entre guillemets.
Non, mais moi, j'enlève vos guillemets, j'enlève la formule. Je veux dire que nous sommes là dans des guerres. Et ce que fait Netanyahou, c'est qu'il est dans une hégémonie politique et militaire aujourd'hui, en tout cas militaire, et donc il bombarde, détruit.
C'est la marche en avant, elle est militaire.
Et oui, mais vous savez, il y a une vieille formule de Raymond Aron qu'on a oublié aujourd'hui. Il dit un militaire sans un diplomate, ce n'est rien. Un diplomate sans un militaire, c'est rien. Il faut les deux. Donc s'il y a simplement le militaire qui a détruit, s'il n'y a pas derrière un projet politique fort et équilibré, on n'est pas dans un nouvel ordre, on est dans un désordre. Quand les Américains ont écrasé les Irakiens en 2003, on a dit il y a un nouvel ordre. Ça a été un désordre et un chaos. Il faut être clair là-dessus. Et c'est vrai pour le Liban, c'est vrai. Alors pour la Syrie, c'est une grande interrogation. Donc, je crois qu'il faut vraiment voir ça. Maintenant, quand vous me posez la question, quel est le plus grand danger pour Israël ? Je réponds à votre question. Le plus grand danger pour Israël, c'est Israël.
J'en doute pas. La question, c'est qu'est-ce qui peut entraver la politique ?
Non, mais je veux dire par là que si Netanyahou ne voit pas que cette fuite en avant militaire ne mène à rien, c'est un danger à terme pour Israël, évidemment. Car les gens qui sont aujourd'hui écrasés se réveilleront dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, je ne sais pas. Mais ce n'est pas comme ça qu'on
installe... Ils sont déjà réveillés.
Ben voilà, enfin, si tu veux, je vois ça plus loin. Oui. Et donc, c'est ça qu'il faut voir, et sans parler des problèmes internes de Netanyahou. Je pense que c'est une situation qui est une illusion d'optique aujourd'hui. Si on veut vraiment créer un nouveau ou un Moyen-Orient différent, eh bien, c'est par exemple dans le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ça me paraît très important. Ouais. Que si, comme vient de le dire Ofer, il y a les accords d'Abraham qui continuent entre Israël et l'Arabie Saoudite, à la condition qu'il y ait un État palestinien, alors là, oui, on pourra parler d'un nouveau Proche-Orient. Et à ce moment-là seulement, probablement dans un environnement pacifié, le Liban pourra trouver ses marques.
Et ainsi, voyez, ça fera reculer Israël. J'entends, mais qui doit être à la manœuvre ? Qui peut prendre en main ces sujets-là ?
Je peux me permettre ?
Ofer Wojtyla,
il a raison. Le principal ennemi ou garde-fou de Netanyahou aujourd'hui, c'est les Israéliens. Et les Israéliens, heureusement encore, c'est un pays de droit. N'oubliez pas qu'il y a quelque chose quand même qui est exceptionnel, qui n'a jamais été vu dans le monde démocratique, c'est qu'en ce moment même, un Premier ministre qui est en train de faire la guerre avec ses voisins doit se présenter au tribunal tous les jours parce qu'il est accusé de
son procès a repris pour corruption au mois de décembre.
Et c'est pas le dernier procès, donc il y a toute une série de procès.
Sauf que les Israéliens, massivement, on a dit, majoritairement en tout cas, le soutiennent.
Non.
Alors.
Non, si vous regardez les derniers sondages, le Likoud, le parti de Netanyahou, reçoit le 23 siège au Parlement, ce qui représente à peu près même pas 20%, mais la coalition qui s'oppose à ce gouvernement-là, aujourd'hui, c'est celle qui gagnerait les élections.
L'opinion populaire peut tourner.
Elle a tourné.
Elle a déjà tourné. Et elle va de plus en plus tourner.
Dès qu'il y aura des prochaines élections, Netanyahou ne sera plus Premier ministre de l'État d'Israël. Point barre. Ce qu'il a fait avec les réfugiés, avec les otages, les Israéliens ne vont pas lui pardonner.
C'est l'opinion qui va tourner, qui tourne, ou est-ce que ce sont les menaces procès ? Donc on a dit effectivement, premier procès, premier dirigeant israélien à comparaître au pénal. Il y a aussi le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, on n'en a pas encore parlé, qui vise Benjamin Netanyahou.
Il y a une crise économique, ils viennent de voter cette semaine le budget de 2025. On s'aperçoit de la crise économique qui va s'abattre sur Israël en 2025. Donc tout ça fait qu'il va y avoir des changements politiques. Moi, je vois les changements régionaux qui sont en train de se faire au Liban, même en Iran, on le verra aussi au Yémen. Et ils peuvent me conduire à penser que quelque chose de positif va se produire dans la région. Positif dans le sens où les gens vont comprendre que ce n'est pas par les armes qu'on règle les problèmes, mais par la diplomatie, par les relations de bon voisinage. Moi, j'y crois. Surtout si l'administration de Trump, à partir du 20 janvier, et les Européens se donnent les moyens de dire aux Israéliens, aux Palestiniens et aux pays de la région, basta, on n'en veut plus de ces guerres-là, elles ne nous servent pas. C'est des problèmes intérieurs en France. Le problème d'antisémitisme, le problème de racisme, le débat est devenu un débat de politique intérieure en France. On ne peut pas se le permettre.
Jean-Paul Chagnolot, vous y croyez ça, justement, à ce que... c'est pas gagné, Américain et Européen, avec la réélection de Donald Trump, avance main dans la main pour prendre en main ce dossier du Proche-Orient et finalement empêcher ce nouvel ordre régional voulu par Netanyahou.
Mais je répète, l'ordre régional voulu par Netanyahou, c'est la domination, c'est une Pax israélienne. Personne n'en voudra, il faut être sérieux, ceux qui étaient...
Oui, mais c'est ce qu'on a dit dès le début de cette émission, la communauté internationale s'est illustrée par son impuissance.
Oui, bien sûr, mais je veux dire, il y aura des résistances. L'Arabie Saoudite, par exemple, je vois mal l'Arabie Saoudite entrer à nouveau dans un processus qui aboutirait à une normalisation s'il n'y a pas des concessions politiques faites faite par Netanyahou sur la question de l'État palestinien. Alors bien sûr, les choses peuvent évoluer de mille façons, mais je veux dire, on est dans, si on n'entre pas dans un champ politique véritablement pour arriver à des solutions politiques, tout ceci va s'écrouler. Je veux dire, quand vous dites marche en avant et que je réponds fuite en avant, je crois que c'est ça. Je crois vraiment que nous sommes dans le militaire, et je suis d'accord avec ce que vient de dire Offert, le militaire ne règle rien. Bien entendu, il faut du militaire parce que les relations internationales, c'est fondé sur des rapports de force. Mais une fois qu'on a établi des rapports de force, si on ne discute pas des intérêts aussi des autres et si on n'arrive pas à des compromis politiques, eh bien, on va nulle part. On va simplement, pendant un temps, dominer et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, je crois que c'est ça la question. Il ne faut pas oublier, vous l'avez évoqué, c'est important qu'en plus, Netanyahou a un mandat d'arrêt. Et ça, c'est on n'a plus le temps d'en parler, mais c'est quelque chose de très important. Il est l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire que c'est un potentiel criminel de guerre pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est quand même considérable. Et là, quand on regarde ce que dit le procureur, Karim Khan, c'est quand même très argumenté. Et donc, s'il se présente à Paris ou ailleurs, selon les obligations...
À Paris ?
Oui, bien sûr, bien
parce
sûr.
Parce que la France a dit,
qu'il
y avait une immunité et qu'elle n'arrêterait pas Benjamin Netanyahou.
Vous savez, je connais bien le sujet, et sur le plan juridique, ça ne tient pas.
D'accord.
À partir
c'est
de
un
moment...
débat qu'on a déjà traité.
non, mais je veux dire, sur le plan juridique, il y a un article, l'article 27, que vos auditeurs peuvent aller vérifier dans le statut de la Cour pénale. C'est très clair, les obligations d'un État par rapport à l'obligation d'arrêter telle ou telle personne qui est l'objet d'un mandat d'arrêt ne souffre d'aucune exception et certainement
moi,
pas d'une immunité
avec le CPI.
Et certainement pas d'immunité, puisque sinon tout le statut de la CPI disparaîtrait. Donc voilà, bien entendu, mais... politiquement ils vont trouver les moyens, mais fondamentalement c'est cela.
Ça renforce Netanyahou au niveau de la politique intérieure. Si c'est le mot de la fin et qu'on arrive à ce nouvel an de 2025, moi mes pensées vont vers toutes les victimes de ces guerres qui n'avaient pas lieu d'être. Et j'espère que vraiment l'année 2025 permettra un sursaut aux Israéliens et au peuple de la région pour reprendre le contrôle de leur vie et de leur avenir. Sinon, c'est la catastrophe. Et moi, je crois en la force des peuples de la région. Moi qui travaille avec les sociétés civiles, je vois qu'il y a un réveil d'une jeunesse israélienne, d'une jeunesse palestinienne qui veut que les choses soient différentes. J'espère qu'eux vont gagner.
Eh bien, merci beaucoup, Ofer Bronstein, président du Forum international pour la paix, ancien conseiller d'Itzhak Rabin, chargé de mission pour le président français pour le rapprochement israélo-palestinien. Jean-Paul Chagnolo, merci. Professeur émérite des universités, président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient. Donc, à voir évidemment 2025, mais on entend vos propos qui annoncent finalement une entrave de ce nouvel ordre régional souhaité par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Merci à Florence Ponce et à Arnold Assowa qui étaient à la préparation de ce débat et Hélène Avril à la réalisation. Restez à l'écoute de RFI dans un peu plus d'une minute. Ce sera le grand journal du soir de Margot Ratézic et puis juste après ce sera Afrique Soir avec Pierre Boudia. Bonsoir.
Bonsoir Romain, bonsoir
au programme
à tous.
Ce soir.
Les suites des élections au Tchad, la République démocratique du Congo confrontée au retour des ADF et la charge du président algérien contre la France. Ce sera à suivre dans le journal. Et puis, Afrique Soir en musique. À l'approche du nouvel an, nous jetons un œil dans le rétro pour vous aider à choisir le meilleur des scènes sénégalaises et ivoiriennes de 2024. De l'éternel Youssou N'Dour à la nouvelle Pépitrat Imra, vous saurez tout pour étoffer vos playlists en prévision du 31. Et puis, loin du fracas du monde, nous irons également respirer à l'île Maurice dans la dernière forêt originelle de l'île, les Boniforest.
Eh bien, merci beaucoup. Rendez-vous donc dans un peu plus de 30 minutes sur RFI. N'oubliez pas RFI. .fr à la une le cyclone Chido, François Bayrou est sur place à Mayotte, il dévoile son plan intitulé Mayotte debout, on va y revenir dans quelques instants avec le grand journal du soir. Merci d'être à l'écoute de RFI dans une minute le grand journal du soir sur RFI.
RFI, la sélection du mois.
Quiero saber si tu labio me eriza la piel. Ven, pégate, quiero saber.
Reino.
A qué colores me saben tu boca.
Gabriela Lima et Vanille.
Si tu suivais le soleil, juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi, l'or et le vermeil coloraient dans les ruisseaux, comme tes yeux dans les
RFI musique.